Cours de philosophie politique, introduction à la philosophie politique, par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 1999 à Saint-Jeudor.
Il n'y a pas de loi pour la famille. Le père de famille n'est pas un législateur. Il est un père. Tandis que l'autorité politique implique la loi, la législation. Et vous voyez, dans les régimes monarchiques, où la monarchie n'a plus le même pouvoir qu'avant, un pouvoir très diminué, il lui reste le droit de veto par rapport à la loi. Et c'est les deux pouvoirs qui restent. Droit de veto par rapport à la loi votée par le Parlement. C'était le cas de conscience du roi Baudouin. Il savait qu'on allait voter telle loi dont en conscience il ne pouvait pas accepter. Alors il a donné sa démission. Parce qu'il sait que s'il avait mis un droit de veto, ça aurait fait un chahut énorme. Et puis, il a un droit aussi pour faire qu'un condamné à mort, ou condamné à la prison perpétuelle, soit relevé, racheté. C'est curieux comme pouvoir ultime. Alors, il faut essayer de comprendre la différence entre l'autorité du père et l'autorité du législateur. Et tout de suite, ça se pose par rapport à la loi. Comme au fond, la justice existe en famille. Et puis, il y a la justice légale au point de vue du pays. Qui fait que c'est encore autre chose. La justice de la famille repose sur des droits naturels ou des droits aussi qui proviennent du pays, c'est sûr, mais qui ne proviennent pas de l'autorité du père, qui proviennent de l'autorité politique. Parce qu'une des choses très importantes, c'est toujours de voir la relation entre la famille, qui est la première communauté, et le point de vue du pays, de la nation politique, qui a un pouvoir plus étendu, mais un pouvoir est un pouvoir, une autorité, disons, une autorité qui est moins forte que celle du père de famille, qui est une autorité qui implique des lois, des constitutions, tout de suite. Qui montre bien que le point de vue politique n'est pas entièrement naturel. Il y a un aspect conventionnel. Et ça relève de ce que je disais au point de départ, y a-t-il une philosophie proprement politique ? Si elle avait une finalité propre, il y aurait une philosophie politique. Si elle avait une autorité naturelle, il y aurait une philosophie politique. Comme il y a une philosophie de la famille. Ne disons pas que la famille, c'est conventionnel. Non. C'est la tendance aujourd'hui. Hein. C'est dire que c'est conventionnel, donc on pourrait changer. Non, c'est naturel. Alors évidemment, il y a des familles qui sont plus ou moins contaminées en raison du manque de philosophie, du manque d'intelligence. Alors, il y a des compromis. Mais la famille est de droit naturel. Et l'autorité du père et de la mère sont de droit naturel. L'autorité fondamentalement est paternelle. Et c'est avec la famille qu'on fait la distinction entre l'autorité naturelle du père et son pouvoir. Jusqu'où le père a-t-il un pouvoir ? Le pouvoir que s'était donné le pater familias romain n'est plus naturel et implique un aspect conventionnel, un aspect légal du pays, qui donne, en plus de l'autorité du père, un pouvoir qui allait jusqu'au pouvoir de faire disparaître son fils s'il était anormal. L'autorité du pater familias. Pour n'avoir que des enfants qui soient bien. Puisque le fils fait l'honneur de son père. S'il se conduit bien, s'il se conduit mal, il ne fait pas l'honneur de son père. Et alors, l'homme a toujours un désir d'honneur qui, quelquefois, est plus important pour lui que l'amour du père à l'égard de ses fils. Et quand un père a des honneurs qui sont très grands, il risque d'aimer plus son honneur que le bien de sa famille, de sa progéniture. Alors, essayons d'entrer dans ce problème très important de le point de vue. La cité politique implique des lois. Pourquoi elle implique des lois ? Alors que la petite communauté familiale n'implique pas de lois. Elle est naturelle. Alors, tout de suite intervient un point de vue conventionnel. Et le point de vue conventionnel va jouer sur l'organisation propre d'une communauté politique. Cette communauté politique sera ou monarchique, ou aristocratique, ou res publica. Ce qui n'existe pas dans une famille. N'allez pas dire dans une famille, ah, cette famille, elle est monarchiste. Cette famille, oh, aristocratique. Cette famille, elle est démocratique. Dès le matin, dès que l'enfant est capable de parler, on institue un parlement, le parlement des enfants, à l'égard des parents, pour dire, aujourd'hui, vous nous laissez libres, complètement, c'est nous qui, non seulement faisons la soupe, mais... Prenons l'autorité. On voudrait bien arriver à ça. C'est la destruction de la famille. On mettrait l'aspect conventionnel au-delà. Vous voyez, il faut sentir ces choses-là et les comprendre. Hein. Pourquoi la famille est-elle naturelle et pourquoi que le politique implique un aspect conventionnel ? C'est un fait qui existe. Mais ce fait qui existe, est-ce que c'est radical ou est-ce que c'est conventionnel ? Je me souviens, je ne dis pas où, pas la peine, mais j'étais devant certains licenciés en théologie de certaines facultés catholiques qui me prétendaient que l'amitié était conventionnelle, que la famille était conventionnelle, que l'autorité du père c'était conventionnel, et l'autorité de la mère aussi sur les enfants. Donc, que les parents aient autorité pour éduquer leurs enfants, c'est conventionnel. Je leur ai sorti, pour qu'ils comprennent un peu mieux, ce que je vous ai déjà dit à propos de l'État d'Israël. ils ont voulu aller très loin en point de vue socialiste, faire que les enfants étaient les enfants du pays, de l'État, et donc on les prenait de la famille pour les éduquer par des infirmières compétentes. Et alors on s'est aperçu, au bout de 10 ans, que ces enfants avaient une intelligence moins développée, plus tardivement développée. Alors comme Israël avait un très grand sens de l'intelligence, on a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on a étudié, on a vu que le développement se faisait moins bien, parce que ces enfants n'avaient pas eu l'amour maternel, naturel, de la mère pour ses enfants. Et que cet amour naturel avait permis un développement plus grand pour les enfants que lorsqu'il s'agissait d'infirmières, même très capables et très compétentes. Elles n'étaient pas mères. L'amour maternel est une chose naturelle et pas conventionnelle. Que la mère aime ses enfants, c'est naturel. Qu'une mère n'aime pas ses enfants, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça peut exister, mais c'est pas normal. Donc c'est un mal naturel. Et c'est le point de vue de la procréation qui donne le fondement. Et qui donne un fondement aussi pour éduquer. La première éducation, c'est les parents. Et on n'a pas le droit de supprimer cette éducation. Alors jusqu'où l'État a-t-il le droit de s'arroger complètement l'éducation nationale? C'est un très gros problème. Et un problème très grave et très important. Jusqu'où a-t-on le droit de faire que l'État ait l'éducation nationale, l'instruction nationale, et empêche la liberté de la famille? Si la famille est de droit naturel, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuse, selon leur conviction philosophique de la famille. Parce qu'ils ont un droit naturel sur l'éducation de leur enfant. Et jusqu'où l'État doit se soumettre à cela. Et ne pas se soumettre à cela, c'est une usurpation. Alors que ce n'est pas bien. Et on doit lutter pour que l'État laisse la liberté d'enseignement, la liberté religieuse. Et je crois qu'on va voir des événements comme ça, et des procès comme ça, paraît-il, qui sont en train de naître. Ça va être très intéressant de voir ça. Jusqu'où l'État a-t-il autorité sur l'éducation des parents, sur l'éducation des enfants? Et d'avoir une éducation qui soit une éducation laïque et non plus religieuse. Parce qu'en France, ça va très loin, hein, déjà maintenant. Est-ce que ça risque d'aller encore plus loin? Et c'est un problème auquel nous devons réfléchir, hein, au point de vue philosophique. Ne disons pas, oh, nous ne faisons pas de politique en tant que religieux. Mais en tant que religieux, nous ne faisons pas profession d'imbécilité. Nous devons au contraire aller le plus loin possible au point de vue de la recherche de la vérité. Et être très à même, sans a priori, hein, sans a priori de catholique de droite. Non. voir si quelqu'un licencié à une faculté catholique prétend que la famille, c'est quelque chose de conventionnel. On doit pouvoir dire non. C'est quelque chose de naturel. Le droit au mariage est une chose naturelle. D'épouser telle femme. Choisie, libre. Et d'éduquer ses enfants selon ses convictions les plus profondes au point de vue humain, au point de vue recherche de la vérité. C'est un droit naturel. Et c'est un devoir naturel. Alors, jusqu'où va ce droit ? Et jusqu'où ça fait des complicités si on les accepte parce qu'on sent qu'on ne peut pas faire autrement. On est quelquefois obligé d'accepter des complicités comme celle-là. Mais en étant conscient, il faut garder d'être conscient. Et comprendre que l'aspect moral qu'on voudrait ne peut pas s'appliquer dans certains cas. On est obligé de nourrir sa famille et d'élever ses enfants et de les élever pour leur permettre d'avoir quand même des études qui leur permettent d'avoir une place honorable dans la cité. À nous voir. Alors, comprenons que l'État a besoin de lois pour montrer, pour faciliter l'acquisition de la fin. Et ces lois sont différentes selon les régimes différents. Et il y aura toujours des régimes politiques différents. Cela a existé, cela existe encore maintenant, et c'est un bien normal qu'on ait une organisation différente au point de vue politique. Et cette organisation différente au point de vue politique montre qu'il y a quelque chose de conventionnel. Et les lois vont dépendre de ces conventions. On a un pays qui est monarchique, qui, depuis des années, a ce régime monarchique. Une révolution arrive et supprime cet aspect monarchique. Cette révolution est-elle légitime, n'est-elle pas légitime ? Elle est légitime si on a affaire à un tyran, un roi tyrannique qui empêche ses citoyens, ses concitoyens, de rester des hommes suivant la loi naturelle. On a un devoir, ça. On a un droit, un certain droit, très délicat du reste, hein, à savoir, quand peut-on supprimer un tyran ? Quand sommes-nous en présence d'un tyran ? Qui vous oblige en conscience de faire des choses qui sont moralement condamnables. Vous n'avez pas le droit de remplacer votre conscience morale par la conscience du législateur. Vous n'avez pas le droit. Parce que la finalité personnelle de l'homme dépasse l'aspect communautaire politique. Si ma fin ultime était politique, ce serait différent. Mais la personne humaine a une finalité propre, au-delà de la communauté. Et c'est à cause de cela que l'homme peut découvrir qu'il est en face d'un tyran. Et que ce tyran, il vaut mieux le supprimer pour avoir et rétablir un droit naturel. Un droit conventionnel mais naturel. Un droit conventionnel qui vient préciser une loi naturelle. Vous voyez, tous les problèmes de conscience qui peuvent se poser à ce moment-là, parce que le conventionnel apparaît. Le conventionnel, c'est artificiel. Hein. C'est artificiel. Attention, c'est pas totalement artificiel. Hein. C'est l'art qui vient perfectionner la nature. Et l'art vient perfectionner la nature quand, justement, la finalité naturelle est respectée. Et qu'on essaie de permettre à cette finalité naturelle d'être plus facilement atteinte. Mais si, au contraire, on légifère avec des moyens qui empêchent d'atteindre notre fin naturelle, on est en face d'une loi tyrannique. Vous voyez, c'est toujours la finalité qui commande tout. Et quand on supprime la finalité, on est en face d'un pouvoir politique machiavélique. Tous les moyens sont bons. Alors, vous voyez, on va tout de suite se poser le problème entre l'autorité et le pouvoir. Et bien distinguer les deux. C'est très utile. L'autorité doit avoir son fondement naturel. Je peux avoir une autorité momentanément artificielle. L'État me délègue telle ou telle mission. Pour cette mission, j'ai une autorité de compétence et l'autorité de celui qui a l'autorité m'envoie et me délègue. J'ai un mandat. Et je distingue alors à ce moment-là autorité et pouvoir. Mon autorité d'envoyer se renforce par un pouvoir. Le pouvoir du gendarme. Le pouvoir du gendarme, il y a l'autorité du gendarme. Le gendarme n'aurait pas grande autorité s'il n'avait pas un pouvoir qui régulièrement augmente. Le pouvoir du gendarme de vous donner une amende parce que vous allez trop vite. Comprenez, son autorité augmente énormément dès que son pouvoir augmente. Si vous dépassez telle vitesse et qu'on vous prend en flagrant délit de dépassement de cette vitesse, on peut le faire aujourd'hui par des moyens artificiels. On peut. Alors, son pouvoir, son autorité devient très grande. Il a l'autorité de mettre en prison. Tant mieux. Ceci directement. Alors, vous voyez, les deux. L'autorité est toujours finalisée par un point de vue naturel, plus ou moins proche, hein. Et le pouvoir vient d'en haut, de celui qui a l'autorité suprême et qui a un pouvoir de vous mettre en prison, un pouvoir de donner des amendes, un pouvoir d'enlever votre liberté momentanément, de vous mettre sous coffre. Alors, tout pouvoir politique a une autorité et un pouvoir. Et ce qui est toujours très intéressant, et ça, ça devrait être fait tout de suite, quand on est en face d'un nouvel État qu'on ne connaît pas, de voir les implications entre pouvoir et autorité. Étudier l'organisation de son régime, de son régime politique. D'étudier les lois qu'il a prononcées. Et puis revenir à des choses très simples qui sont justement une organisation en vue de l'éducation. C'est la première chose qu'on doit regarder dans un État. Et c'est la première chose qu'on doit regarder quand on doit voter. Est-ce qu'on est en face d'un État qui respecte la liberté de la famille ? Dans la déclaration des ceux qui doivent être élus, regardez s'ils respectent l'autorité de la famille. S'ils ne respectent pas l'autorité de la famille au point de vue éducation, on n'a pas le droit de coopérer. Évident. Parce qu'alors vous coopérez à un tyran. Dans les questions économiques, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus parce que l'économie, il y a tout de suite le point de vue artistique qui intervient. Dès le point de départ, la monnaie. La monnaie n'est pas naturelle. Elle est conventionnelle. Pourquoi un billet de banque vaut 100 francs ? Pourquoi un billet vaut 100 francs, tamponner l'effigie de César, du César moderne, hein, qui est la République helvétique, un César moderne, un César civilisé. Alors on voit le tampon, on voit la marque. Et ça, est-ce que c'est autorité ou pouvoir ? Essayez de découvrir ça. Quand vous vous servez d'un billet de 100 francs, ce billet de 100 francs, ou de 200 francs si vous aimez mieux, ou de 500 francs si vous aimez mieux, est-ce que c'est pouvoir ou autorité ? C'est-à-dire c'est mélangé. Oui, c'est très souvent mélangé. Mais à un moment donné, l'autorité dépasse. Non, à un moment donné, le pouvoir dépasse. Pardon. Le pouvoir dépasse. Et ça devient purement artificiel. Sans fondement naturel. Ah, c'est intéressant, ça. À ce moment-là, êtes-vous obligé d'obéir ? On n'obéit jamais à un pouvoir purement factice. On obéit à une autorité. Vous voyez, le cas des martyrs, hein. On veut les obliger d'obéir à quelque chose qui est contraire à leur conscience. Et ils disent non. Et ils ne sont pas révolutionnaires quand ils disent ça. Le martyr n'est pas révolutionnaire. Le martyr est celui qui cherche la vérité de façon implacable. Jusqu'au bout. Vous voyez, très vite, on entre dans une complexité qui est commandée par la finalité, autorité, qui est purement formelle et commandée par l'artificiel, le point de vue non plus de l'autorité, mais un point de vue légal, conventionnel. Je ne veux pas dire que toute loi est comme ça, mais il faut toujours se demander si cette loi a un fondement naturel ou si cette loi est purement conventionnelle. De fait, aujourd'hui, c'est très important de réfléchir sur ce point de vue-là. Voyez, là, on aboutirait tout de suite, au point de vue philosophique, à étudier les diverses formes de gouvernement et les conséquences de ces diverses formes de gouvernement. Ce que Aristote a étudié longuement dans sa politique et qui est un aspect extrêmement intéressant de la politique, en regardant en même temps la perversion de ces différents gouvernements qui est diverse. Et c'est quand la perversion est la plus grande que vous êtes en face d'un gouvernement qui est le plus parfait, qui est l'opposé du gouvernement parfait. Perversio, optimi pessima. Alors la perversion de ce qui est meilleur, c'est pire. Ne faites pas ce raisonnement. La perversion est pire, donc le gouvernement doit être mauvais. Ah, pas du tout. C'est pas une loi, perversio optimi pessima. C'est un axiome. La perversion de ce qui est meilleur est le pire. Et très facilement, on regarde le pire, la perversion pire. Alors, ah oui, c'est vraiment mauvais, puisque ça aboutit à ça. Attention, ça aboutit à ça à cause de la perversion, pas à cause du gouvernement.